Le journal est présenté par Nicolas Crozel. Bonjour Nicolas.
Bonjour Karine, bonjour à tous. À la une, les Jeux avant les Jeux à Tokyo. L'ouverture officielle, c'est demain. Mais le tournoi olympique de foot commence dès ce matin. France-Mexique à 10h. On sera en direct de Tokyo dès le début du journal. Une première dose de vaccin pour 50 millions de Français d'ici la fin août. C'est l'objectif de Jean Castex. Mobilisation générale face au variant Delta qui se propage à la vitesse grand V. Pourquoi est-il si contagieux ? Élément de réponse à suivre. Nous irons aussi en Martinique. C'est le territoire français le plus touché aujourd'hui par les variants Delta, mais aussi Alpha. Tout ça alors que les débats ont été vifs hier soir à l'Assemblée nationale sur le pass sanitaire.
Et notre premier invité ce matin, c'est Patrice Pinozzi, avocat au Conseil d'État. Il est aussi spécialiste des questions de liberté publique avec la vaccination obligatoire, l'extension du pass sanitaire. Sommes-nous en train de jouer avec nos libertés ? Courons-nous le risque de les brader ? Rendez-vous tout à l'heure à 7h50.
Et avant cela, la réplique du Maroc dans ce journal après les accusations d'espionnage et les révélations de l'affaire Pegasus. Et puis Netflix en perte de vitesse, le géant américain de la vidéo en streaming perd même des abonnés aux États-Unis.
France Inter.
Direction Tokyo pour commencer à la veille de l'ouverture officielle des Jeux Olympiques.
La cérémonie c'est demain, mais certaines compétitions ont commencé depuis hier et les premiers Français à entrer en lice, ce sont les footballeurs dans un peu plus de 2 heures maintenant. Bonjour Xavier Monferrand.
Konnichiwa, Nicolas, bonjour.
Vous êtes en direct de Tokyo, vous avez bien répété. Première participation donc pour les Bleus depuis 25 ans, les Jeux d'Atlanta en 96, et c'était pas gagné hein, cette histoire.
Oui, on peut dire qu'elle revient de loin, cette équipe de France, hein, faite de briques et de brocs. À un moment, on a même cru qu'elle ne pourrait pas honorer sa place au jeu parce qu'elle n'avait pas assez de joueurs, tout simplement. D'ailleurs, le sélectionneur Sylvain Ripoll a pu en emmener 19 seulement sur 22 possibles. Le football français n'a pas joué le jeu, hein, tout simplement. Les clubs n'ont pas voulu libérer leurs jeunes joueurs. Pas de Camavinga, par exemple, le phénomène retenu par son club, le Stade Rennais. Sylvain Ripoll a vraiment ratissé large pour pouvoir disputer ce tournoi olympique, ce qui fait dire au sélectionneur que vu les circonstances, eh bien ça ne peut que motiver les troupes.
C'est comme ça dans la vie en général, quand il y a des difficultés, ça fédère les énergies. Et je pense qu'on n'avait pas besoin de ça, mais en tout cas c'est certainement une raison supplémentaire pour faire une grande performance collectivement et pour relever un challenge qui est à la fois pas évident, mais à la fois tellement excitant.
Et pour encadrer les jeunes, Xavier Monferrand, le sélectionneur des Bleus a fait appel à 3 grands frères.
Oui, en fait, Sylvain Ripoll, comme tous ses confrères, a le droit d'appeler 3 joueurs de plus de 23 ans. Il a convoqué le Montpelliérain TJ Savanier qui a appris sa sélection alors qu'il était au camping, en vacances, histoire vraie. Et puis, il a aussi appelé les 2 Mexicains du football français, 2 anciens Marseillais qui jouent désormais pour les Tigresses de Monterrey. Florian Thauvin, le champion du monde 2018 en Russie. Et puis, vraiment, le grand frère André-Pierre Gignac, 35 ans, devenu une idole au Mexique après avoir été celle du Vélodrome et comme un symbole. Eh bien, le premier match des Français. Ce sera donc face au Mexique tout à l'heure, l'adversaire le plus solide qui se dresse sur la route de cette équipe de France expérimentale qui ne sait pas très bien où elle va, mais qui y va tout droit.
Et ce sera à 10h le coup d'envoi. Xavier Monferrand, en direct de Tokyo pour France Inter avec les moyens techniques de Radio France. Et puis à 24h donc de la cérémonie d'ouverture, le directeur artistique démis de ses fonctions après une ancienne blague sur l'Holocauste qui date de plusieurs années et qui a ressurgi.
Les débats sur le pass sanitaire reprendront ce matin à 9h à l'Assemblée nationale.
La séance a été suspendue vers minuit après des échanges pour le moins électriques entre gouvernement et opposition au pluriel. Il reste 900 amendements à examiner. Le temps presse. Le texte doit ensuite aller au Sénat et être adopté définitivement au plus tard dimanche. Qu'on avance, a plaidé hier soir à plusieurs reprises le ministre de la Santé, Olivier Véran, alors que la 4e vague déferle sur la France. Plus de 21 000 nouveaux cas hier, 140% de hausse en une semaine. Le coin de France le plus touché aujourd'hui n'est pas en métropole, mais la Martinique, avec un taux d'incidence de 625 cas pour 100 000 habitants. C'est 3 fois plus que le précédent record sur l'île. Plus de 2200 nouveaux cas en une semaine. La Martinique placée sous couvre-feu déjà hein, depuis quelques jours, entre 21h et 5h. Et de nouvelles restrictions annoncées hier, comme l'arrêt du service en salle dans les restos. L'agence régionale de santé parle d'une situation alarmante, Thibault Lefebvre.
Le plan blanc a été déclenché il y a déjà une dizaine de jours car le pic de la 3e vague est largement dépassé.
On voit cette 4e vague qui a l'air encore plus forte que la 3e qui était déjà plus de 2 fois plus forte que les précédentes. Et cette épidémie ne va pas se ralentir dans les prochains jours.
Benjamin Garel dirige le CHU de Martinique. 80 lits Covid sont actuellement ouverts, c'est 10 fois plus qu'en temps normal et il y en aura 120 en fin de semaine.
Les flux de patients double tous les 6 jours actuellement. Pourquoi cette quatrième vague? Alors c'est vrai qu'elle est étonnante parce qu'elle se fait sur le variant anglais, le variant alpha, pour lequel le vaccin protège bien. Mais ici, les gens ont peu confiance dans le vaccin. Seulement 15% de la population est vaccinée. Nous, on est relativement inquiets.
Et cette défiance touche aussi le personnel de l'hôpital qui, une fois la loi sanitaire promulguée, aura l'obligation de se faire vacciner sous peine d'être licencié. Une impasse pour Benjamin Garel qui demande au ministère de la Santé des assouplissements.
C'est impossible, hein. On a 4 personnes sur 5 qui refusent de se vacciner. On ne peut pas licencier 4 personnes sur 5 au moment où justement on manque de soignants, il n'y aurait plus d'hôpital.
D'autant plus que le variant Delta, beaucoup plus contagieux, a fait son apparition sur l'île. Il concerne actuellement près de 10% des cas positifs.
Le Delta plane sur nos têtes en Martinique donc, mais aussi bien sûr en métropole. Pourquoi ce variant est-il si redoutable? Il est plus contagieux que la souche originelle et il a comme caractéristique aussi, Cécilia Arbonnat, d'affaiblir plus vite les personnes qui en sont infectées.
Classé dans la catégorie des variants préoccupants, le Delta est à l'heure actuelle celui qui possède le badge d'accès le plus efficace pour mener une contamination de masse. Le professeur Anne Goffard, virologue au Centre hospitalier universitaire de Lille.
On décrit des mutations notamment dans la protéine S pour spike spicule, qui permet au virus de s'accrocher aux cellules humaines. L'image qu'on pourrait prendre, ce serait une image d'une clé avec une serrure. La protéine S, c'est la clé. Elle change de forme pour reconnaître de mieux en mieux cette serrure et ouvrir la porte du premier coup.
Autre particularité du Delta, il est doté d'une charge virale beaucoup plus puissante que ses prédécesseurs.
Il y a plus de virus qui rentrent, donc il y a plus de cellules infectées, la quantité de virus est plus importante. L'autre hypothèse, ça pourrait être que le virus se multiplie mieux dans nos cellules, mais ça, j'ai pas d'argument scientifique qui permette de le dire aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que le Delta reste bloqué par les anticorps et l'immunité qu'on développe suite à la vaccination. C'est pour ça que, personnellement, je serais pour la vaccination des enfants de moins de 12 ans. D'abord parce que le Covid va devenir une maladie de l'enfant. En plus, ils seront asymptomatiques, donc on s'en rendra pas compte, etc. Donc le virus va continuer à circuler et il y a un risque que d'autres variants apparaissent.
La virologue Anne Goffard est catégorique. Immuniser les adolescents de 12 à 17 ans ne suffira pas.
Vacciner les plus jeunes, disait donc cette virologue, ce n'est pas encore sur la table. Pour le moment, le pass sanitaire et donc l'incitation forte au vaccin concerne les adultes. Le pass sanitaire doit être étendu aux 12-17 ans à partir du 30 août. Le vaccin reste la seule arme face au virus. Encore faut-il arriver à prendre rendez-vous. Le Premier ministre Jean Castex promet l'ouverture de 5 millions de créneaux supplémentaires dans les 2 semaines. Objectif, atteindre 50 millions de Français qui auront reçu une première dose d'ici la rentrée contre 38 millions aujourd'hui.
Et pour réserver sa place, le réflexe majoritaire chez les moins de 35 ans, c'est Doctolib.
La plateforme la plus connue est prise d'assaut depuis 10 jours et l'intervention d'Emmanuel Macron à la télé. Mais d'autres plateformes moins connues ont pourtant été choisies par certaines villes. Et du coup, Victor Vasseur, on peut aussi aller chercher des créneaux sur ces sites-là.
Il y a 1 an et demi, Maya n'existait pas. Créée en plein confinement au printemps dernier, cette start-up compte aujourd'hui 200 salariés. Si elle grossit si vite, c'est grâce à la campagne de vaccination.
Avant la vaccination, les Français ne connaissaient pas très bien Maya.
Et il a fallu convaincre les centres de vaccination un par un et devancer la concurrence, raconte Mathieu Bécamel, le porte-parole de Maya.
Spontanément, quand vous connaissez qu'un acteur, vous pensez à lui et vous travaillez avec lui. On a eu la double peine puisqu'il a fallu parfois expliquer à des centres qui ne connaissaient aucun acteur, et bien là, les montrer pourquoi on était la meilleure solution pour eux, et puis pour certains, leur expliquer les différences qu'on pouvait avoir et pourquoi ils avaient intérêt à passer avec nous.
En Isère, dans la Somme, les Côtes d'Armor, mais aussi dans les Dom-Tom, la plupart des créneaux de réservation se réalisent via Keldoc, le troisième prestataire, car il n'y a pas que Doctolib, martèle Jean-Louis Baudet, le responsable des opérations vaccination.
Par contre, va se poser le problème des gens qui sont en villégiature là-bas, qui sont en vacances, qui ne sont pas forcément au courant de l'offre vaccinale et qui vont peut-être avoir le réflexe d'aller sur Doctolib. Et sincèrement, il y a des territoires, ils ne vont rien trouver.
Les trois plateformes ont gagné en notoriété grâce à la campagne de vaccination. Mais c'est aussi un coût. Par exemple, la start-up Maya ne rentabilise pas l'opération.
Victor Vasseur.
Le Maroc hausse le ton après les accusations d'espionnage.
Les autorités marocaines démentent avoir utilisé le logiciel Pegasus, logiciel qui s'infiltre dans les téléphones portables. L'affaire a été révélée par France Inter grâce à l'enquête menée par un consortium de journalistes dont la cellule d'investigation de Radio France fait partie. Une enquête qui montre que le Maroc aurait ciblé notamment l'un des téléphones d'Emmanuel Macron. Rabat dément donc et allume des contre-feux. Christian Chéneau.
Après les démentis catégoriques, voici venu le temps de la contre-offensive pour Rabat. Les premiers signaux d'une riposte médiatique commencent à apparaître sur les sites d'information numérique liés au pouvoir. Ainsi, 360 Maroc dénonce ce qu'il appelle une fuite à la carte. Pourquoi cette fuite, décidément très sélective, n'englobe-t-elle pas tous les pays qui utilisent Pegasus, s'interroge ce site internet semi-officiel. Une question que se pose aussi son confrère du site Barleman, réputé proche des services, qui se demande si le Maroc est cité dans l'enquête de Forbidden Stories. Il est étonnant de voir que l'Espagne, par exemple, n'y soit pas évoquée, alors que le président du Parlement catalan, Roger Torrent, a pourtant été ciblé par Pegasus, souligne le site Barleman. Une façon de reprendre l'argumentaire des autorités marocaines qui dénoncent une campagne de dénigrement orchestrée depuis l'étranger. Dans sa riposte, Rabat veut également engager le bras de fer sur le terrain judiciaire. Le Maroc menace désormais de poursuite quiconque l'accusera d'avoir eu recours au logiciel espion Pegasus. À Rabat, Christian Chéneau, France Inter.
Un triste anniversaire en Norvège, les 10 ans de la tuerie d'Utøya, 69 personnes massacrées par Anders Breivik, jeune militant d'extrême droite. Des jeunes travaillistes qui participaient à un camp d'été sur l'île, c'était le 22 juillet 2011, un peu plus tôt dans la journée. Le terroriste avait aussi fait sauter une bombe à Oslo, tuant 8 personnes. En Chine, l'eau continue de faire des ravages, au moins 33 morts dans les inondations, un métro englouti, des barrages qui menacent toujours de céder et 200 000 habitants qui ont dû quitter leur logement. Les violents incendies dans l'ouest du Canada, des milliers de personnes ont dû quitter leur logement, notamment en Colombie-Britannique. Plus de 3000 pompiers sont déployés pour lutter contre ces feux de forêt.
C'est le leader mondial de la vidéo à la demande, mais Netflix semble marquer le pas.
Le géant américain a publié ses résultats du deuxième trimestre 2021, malgré une croissance en hausse de 19% sur un an et quelques 210 millions d'abonnés à travers le monde. Sa progression en nouveaux abonnés a considérablement ralenti. Netflix perd même des abonnés aux États-Unis, Alexandra Hakoun.
La faute à la fin de l'effet confinement, impossible de retrouver la croissance exceptionnelle de 2020 et ses 10 millions de nouvelles recrues à travers la planète. Responsable également la montée en puissance de la concurrence, Disney+, Apple TV+, Peacock, HBO Max, en un an les nouvelles plateformes ont poussé comme des champignons. Et puis la crise sanitaire a donné un énorme coup de frein à la production, donc à l'arrivée de nouveautés indispensables, Netflix le sait, pour attirer et conserver les abonnés. Mais le numéro 1 du secteur reste serein, les séries succès qui lui ont fait défaut ces trois derniers mois seront bientôt de retour. La Casa de Papel saison 5, Sex Education saison 3. Et puis Netflix va se diversifier, proposer des jeux vidéo interactifs inspirés de ses séries. On parle aussi d'un magasin en ligne de produits dérivés. Surtout, d'après une étude Nielsen, Netflix aux États-Unis ne représente que 7% du temps passé devant les écrans hors mobile. Le streaming 27%. Son potentiel de croissance est donc encore énorme.
Alexandra Hakoun pour nous donner les nouvelles de Netflix.
Merci Nicolas Crozel. Bonne journée.
Bonne journée.
À suivre l'édito Éco.